Ma ville, ma région, l'actualité de Dijon Métropole.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Shalom Dijon, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Corinne Grand-Vincent, présidente de l'association Sensoridis. Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur.
Vous allez m'expliquer tout de suite de quoi il s'agit, parce que je ne connais pas cette association.
Alors Sensoridis, c'est une association de parents d'enfants, de parents ou d'adultes, qui souffrent du mauvais fonctionnement d'un sens qui s'appelle la proprioception. Un sens qui est peu connu et qui est pourtant très important puisqu'il nous permet de connaître la position de notre corps dans l'espace. Donc cette association, elle va avoir 5 ans, on l'a créée en fin d'année 2018. Derrière l'histoire de sa création, bien, il y a l'histoire de mon fils, en fait, Marc, qui est un enfant qui rencontrait d'importants troubles des apprentissages, que ce soit lire, qui c'était très difficile, écrire, qui était aussi extrêmement difficile, compter, impossible. Et donc cet enfant, on ne comprenait pas bien, qui était par ailleurs très vif et très intelligent, surtout à l'oral, on ne comprenait pas bien pourquoi toutes ces difficultés. Nous avons donc entamé un parcours classique, un parcours à la recherche de troubles 10. On est passé par le réseau de santé Pluradis, où on a fait beaucoup de bilans, vu beaucoup de monde, on a eu un premier diagnostic de posé, des rééducations préconisées, donc notamment beaucoup d'orthopsie, puisque c'est un enfant qui avait du mal à gérer son regard. Et puis au bout de 2 ans, il n'y a absolument rien qui fonctionnait, il ne progressait pas du tout. Et à ce moment-là, on nous a parlé d'une prise en charge nouvelle, encore très contestée, et dont toute la recherche se fait ici à Dijon, au sein de l'INSERM. Et voilà, on s'est dit qu'on n'avait pas grand-chose à perdre d'essayer, puisque rien ne fonctionnait avec notre fils, et on était quand même rassurés par le fait que ça se faisait quand même au sein de l'INSERM. Donc même si on pouvait lire des choses horribles là-dessus sur Internet, on s'est dit on va y aller. Et on n'a jamais regretté d'y être allé, puisque quand on a commencé à mettre en route le traitement proprioceptif, on a vu notre fils progresser. Alors ça n'a pas été une baguette magique, c'est plusieurs années de rééducation et en plus très rigoureuse, puisqu'on rééduque le cerveau, on reconstruit le schéma corporel, les schémas neuronaux, donc ça demande à être suivi correctement. Mais aujourd'hui, mon fils va avoir 20 ans et aujourd'hui, il fonctionne tout à fait normalement.
Alors, vous avez parlé de l'INSERM, dont on a entendu parler pendant le Covid, malheureusement. Oui. Rappelez-nous ce que c'est que l'INSERM.
Alors, l'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Donc
les chercheurs, les gens qui travaillent sur cette méthode, en tout cas de soins,
oui.
On peut dire ça comme
un,
ça.
Un traitement non médicamenteux, mais un traitement à part entière.
Donc, sont basés à Dijon.
Au STAPS ici, à l'INSERM CAPS, ça s'appelle Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice. Et d'accord. C'est une unité de l'INSERM, en plus très, très cotée, dans les meilleurs de France. C'est pour ça que moi, je n'arrivais pas à comprendre tout ce que je pouvais entendre sur ce traitement.
Alors peut-être vous reviendrez sur les résistances, ou même les oppositions à ce type d'approche. Peut-être développer un petit peu ce qu'est ce travail de proprioception.
Alors en fait, on va modifier la proprioception générale avec d'une part des prismes dans les lunettes. On dévie très légèrement la lumière et l'endroit où l'image arrive sur la rétine, ce qui va provoquer un petit déplacement de l'œil. On va jouer sur les muscles oculaires qui eux-mêmes vont commander les chaînes proprioceptives qui descendent. On va aussi mettre à l'enfant des semelles proprioceptives, donc on va changer très très légèrement sa perception du sol. On a plein de capteurs proprioceptifs sous les pieds, et en modifiant très légèrement la proprioception du sol, on modifie la tension des muscles des jambes, des muscles montants. Et donc à ça aussi, on peut aussi agir sur la bouche, parce que la bouche entre aussi dans la régulation proprioceptive. Les enfants vont aussi avoir des exercices respiratoires, parce que le diaphragme, c'est le muscle de la respiration, c'est un muscle, donc il y a aussi de la proprioception. Chez les enfants dysproprioceptifs, ben ce diaphragme ne fonctionne pas correctement, ce qui fait qu'il y a des difficultés respiratoires pendant le sommeil qui provoquent pas des vraies apnées, mais des micro-réveils pendant le sommeil qui font que l'enfant, le lendemain, va se réveiller fatigué, il n'aura pas mémorisé ses leçons. Donc ces exercices respiratoires vont avoir pour but de reprogrammer le fonctionnement de ce diaphragme. Et donc avec ces différents éléments, on va reprogrammer à terme la proprioception générale, hein, le schéma corporel de l'enfant. Et quand le schéma corporel est corrigé, et bien les informations que reçoit le cerveau de ses autres sens, hein, de la vue, de l'audition, sont concordantes et le cerveau peut enfin fonctionner au maximum de ses capacités.
Très bien, donc vous êtes repassé par un nouveau diagnostic en quelque sorte.
Oui, enfin, disons que le reste n'était pas faux, mais en fait, on allait creuser plus loin à l'origine de la cause, en fait. D'accord. Et donc, en traitant la cause, eh bien, en fait, on améliore les étages au-dessus, les rééducations fonctionnent enfin, alors que quand on n'avait pas réglé le problème de base, en fait, c'est un peu comme si vous construisiez une maison sur du sable, en fait, ça s'écroule.
D'accord. Ça tient pas. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de ce travail? Qu'est-ce que ça représente comme effort, comme mobilisation pour pouvoir se soigner, pouvoir avancer, pouvoir dépasser ses problèmes?
Alors, le traitement proprioceptif en lui-même, il faut porter des lunettes en permanence. Voilà, il faut bien expliquer à l'enfant. Or, le mien, il était déjà myope, donc du coup, porter des lunettes, c'était pas trop difficile. Bon, elles ont un petit galbe particulier. Donc, mais voilà, avec des opticiens, on arrive à trouver des très jolies montures. Il faut porter les semelles en permanence. Enfin, c'est ça. Il faut bien que l'enfant, on peut reprogrammer le cerveau que si on le stimule de manière permanente de la même façon. Donc voilà, ça c'est... Et puis ces exercices respiratoires, vous voyez, il y a des contraintes journalières qui vont durer plusieurs années et qui sont importantes. Donc voilà, ça parfois...
Il faut que ça devienne une habitude, quoi.
Voilà.
Faut que ça devienne une...
Voilà.
Une deuxième façon d'être.
Parfois, voilà, ça va vous demander, vos parents, vous allez vous battre avec votre enfant parce que parfois il en a marre. Enfin, voilà, il y a des parents qui me disent, mais je dis, ben oui, mais si votre enfant il avait un cancer, vous ne cesseriez pas la chimiothérapie parce qu'il en a marre. Voilà, hein, c'est un traitement, c'est long. Mais en fait, quand on voit les résultats, voilà, ça se fait et puis ça passe finalement très vite. Puis à côté de ça, malgré tout, s'il y a des troubles des apprentissages, hein, ça ne va pas se résoudre miraculeusement non plus. Donc on va continuer l'orthophonie, on va continuer, mais en fait, les autres éducations vont être plus efficaces. Ça va tenir, enfin. Moi, avec mon fils, rien ne tenait jamais. Là, ça va tenir et en quelques années, c'est terminé. Moi, mon fils, il a refait un an et demi d'orthophonie derrière. Enfin, voilà, après, c'est...
Oui, il faut que l'enfant comprenne bien les enjeux.
Voilà.
Participe à l'aventure.
Voilà, quoi. Il participe et que les parents soient derrière parce qu'un enfant de lui-même, on ne peut pas lui demander de comprendre. Enfin, quand ils sont petits, c'est le parent qui doit être derrière, stimuler. Et voilà, au bout de quelques années, aujourd'hui, tout ça, c'est plus qu'un mauvais souvenir.
Alors, de ce que vous savez comme présidente par la fréquentation, oui, des autres parents, etc., quelqu'un qui serait détecté trop tard, enfin en tout cas tardivement, est-ce que malgré tout, je ne sais pas, à 10 ans, est-ce que c'est encore possible de faire quelque chose?
Oui, parce que mon fils, il a commencé son traitement proprioceptif à 10 ans, puisque le temps qu'on fasse tout notre parcours. Et puis même, moi, j'ai des adultes qui sont traités. Moi-même, j'ai été traitée. Alors après, on n'a pas l'air plasticité cérébrale des enfants. Et puis, il y a déjà très, très peu de professionnels formés pour les enfants. Alors autant vous dire que pour les adultes, c'est mission presque impossible pour en trouver, malheureusement. Et malheureusement, il y a peu de monde qui se forme. Parce que comme c'est contesté, eh bien, en fait, les gens n'ont pas envie de se former pour se faire taper dessus. Enfin, voilà, on est dans
quel
un...
Quel est le type de personnel qu'est-ce qu'il faut comme compétence? Ce sont des médecins?
Alors en fait, c'est toujours une prise en charge pluridisciplinaire. Donc en fait, il faut quand même qu'il y ait toujours un médecin dans la boucle pour éliminer d'autres pathologies organiques. Et puis ensuite, il faut un ophtalmo, un orthoptiste pour mesurer les prismes. Hein. Il faut voir un podologue pour les semelles. Parfois, il va falloir faire des thérapies manuelles, ostéopathie, kinésithérapie. Mon fils a fait pas mal de kinésithérapie aussi. Parfois, il y a des petites choses à poser sur les dents, parce que, comme je vous ai dit, la proprioception des yeux est portée par le nerf trijumeau qui nerve aussi la bouche. Donc, on pose des petites choses sur les dents et ça, il faudra avoir un orthodontiste ou un dentiste formé. Et comme je vous l'ai dit, c'est encore dur à trouver. Alors ici, sur Dijon, on a de la chance parce que... parce que ma foi, on trouve encore assez facilement parce que la recherche est ici. Mais moi, j'ai des adhérents dans toute la France et qui font beaucoup, beaucoup de kilomètres. Hein. J'ai eu dans mes adhérents hein, des gens qui venaient d'Arabie Saoudite, des États-Unis, j'en ai en Belgique, parfois qui venaient jusqu'ici en Bourgogne. Hein. Donc, voilà, c'est...
Donc, les choses évoluent un petit peu puisque là, visiblement, il y a des résultats. Donc, il y a sûrement des articles scientifiques qui permettent aujourd'hui...
Donc, ils publient. Hein, ça fait 15 ans qu'ils publient. Donc, il y a une formation universitaire ici, pareil, depuis plus de 10 ans hein, au sein de l'INSERM. Mais c'est très, très compliqué. Ça a beau être universitaire, c'est très difficile à percer parce qu'il y a vraiment une opposition. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des 10, hein, ce qui domine, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle les 10, hein, dyslexie, dyspraxie, etc., c'est le cerveau qui fonctionne pas bien. Et c'est l'idée qui domine en France. Hein. Et en fait, là, c'est une idée très subversive qui dit... c'est pas le cerveau qui dysfonctionne, c'est un sens qui ne fonctionne pas bien. Et comme ce sens fonctionne mal, le cerveau n'a pas pu se développer correctement. Et donc, si on prend en charge le sens, on va pouvoir rétablir les connexions neuronales. Enfin, voilà, on va pouvoir changer les choses. Mais c'est encore une idée très, très, très subversive. Hein. Moi, quand j'ai rencontré le professeur Papazantis à l'INSERM, il m'a dit que... C'était presque comme si on avait remis en cause la gravité quand même. Hein. Donc voilà, c'est pour ça
que... Je sais que dans le domaine du cancer, il y a une nouvelle approche révolutionnaire depuis quelques mois qui vise à penser complètement autrement la question du cancer et que pour l'instant, il se heurte effectivement à des résistances énormes. Je parle bien du domaine scientifique, pas de la magie, d'autres approches.
Très bien. C'est le fonctionnement de la médecine, de toute façon.
Donc, votre association, comment fonctionne-t-elle? Comment est-elle connue?
Avec mon histoire, en fait, quand mon fils allait mieux, on était plusieurs familles à avoir vu nos enfants évoluer, donc on a décidé de se constituer en association pour justement défendre les droits des familles, faire connaître ce traitement et essayer de le rendre, le faire connaître, le développer, le rendre accessible au plus grand nombre. Hein. Donc voilà.
Ce qui veut dire que votre fils n'est pas opposé au fait que... ses parents passent du temps sur cette question-là, parce que ça peut arriver, des fois, c'est...
Non, mon fils, il est passé complètement à autre chose, hein, il a même oublié. Ah, il me laisse faire, avant même de créer Sensoridis, en fait, j'avais déjà un premier blog, hein, donc qui en est bientôt à 6 millions de pages lues, où il est en photo dessus, il était un petit peu la star à l'époque. Donc jamais je n'avais mis son nom, mais il savait déjà que ça existait, qu'il y avait des photos de lui sur ce site. Et puis voilà, j'ai créé Sensoridis, il m'a aidé. Enfin voilà, il n'est pas du tout contre. Après lui, il est quand même passé à autre chose, il n'a pas... Voilà, je ne lui en veux pas du tout.
Il ne sera pas captif de cette problématique.
Non, voilà, lui, il ne s'y investit pas. Et puis il a même oublié, hein, quand tu lui dis... Je ne me souviens pas que tu sortais de l'école en pleurant. Marc, il a tout oublié. Il fonctionne normalement. Il a oublié qu'il a eu un fonctionnement différent. C'est assez
intéressant.
Oui. Donc voilà. Non, il n'est pas opposé.
Donc l'association se crée à partir de l'expérience, enfin à partir de votre expérience et de parents
et celle
que vous aviez
parents.
Sensibilisés, oui.
Voilà, parce que donc du coup...
À partir des résultats positifs des enfants.
Voilà, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, j'étais déjà sur Internet, moi, par ce premier blog, et puis j'avais déjà une page Internet, j'avais déjà créé un petit groupe de discussion, enfin avant même d'être en association, si vous voulez, j'avais déjà fait un petit travail...
Vous communiquiez déjà sur ce sujet qui
me paraissait très important. Et donc en fait, l'étape suivante, c'était de se dire, ben voilà, si on se mettait se constituer en association pour essayer un petit peu de faire avancer les choses et de rendre tout ça, comment dire, d'avoir une existence légale en fait.
D'accord, donc aujourd'hui vous êtes en association 1901.
Oui, donc depuis bientôt 5 ans.
Oui. Vous êtes combien d'adhérents? Enfin, si c'est
alors là, aujourd'hui, pour l'année 2022, on est à peu près aujourd'hui à 210 adhérents à jour de leur cotisation. L'année dernière, en fin d'année 2022, on était 280. Et puis depuis la création de Sensoridis, si je compte tout, on doit être un peu plus de 500 adhérents qui ont adhéré à l'association.
Oui, avec les entrées et les sorties.
Voilà, parce qu'en fait, comme on n'offre pas un service, vous voyez ce que je veux dire, bon, on parlera un petit peu de ce qu'on fait, mais voilà, les gens, ils adhèrent une année, deux années, puis après, ils passent à autre chose. Donc voilà.
Dans votre travail associatif, vous partagez des éléments de recherche, vous avez des pages consacrées à la recherche.
Oui.
Dites-nous un petit peu comment vous...
Alors, je peux vous parler en fait...
Reprenez, oui, votre...
Les activités, votre pas logique. Les activités, mais les actions de notre association, pour le coup, parce que ce n'est pas des activités, c'est des actions. Donc, en fait, notre association, elle a trois grands axes. Hein. Donc, le premier, c'est d'informer par tous les moyens sur la dysfonction proprioceptive. Et pour ça, en fait, on diffuse une information vulgarisée et qui est validée par, par des chercheurs et médecins avec qui je suis en contact. Hein. Donc pour cela, on a deux sites internet. Donc mon premier blog dont je vous ai parlé, qui était plutôt un blog d'adaptation pédagogique où je partageais ce que je mettais en place pour mon fils et dont le financement a été repris par Sensoridis, du coup, parce que ça restait, c'est des adaptations pour enfants 10, donc ça restait dans l'objet de l'association pour aider ces enfants-là. Et puis bien sûr le site Sensoridis de l'association où là c'est de la vulgarisation et de la veille scientifique et où justement je diffuse les études qui sont faites ici à Dijon en les vulgarisant, en donnant la parole aux chercheurs par des visioconférences par exemple, parce qu'en fait aujourd'hui comme je vous dis le monde des 10 est très fermé. Et personne ne parle de ce qui se passe ici. Personne ne dit que en 2021, ils ont publié dans Scientific Reports du groupe Nature. Donc c'est quand même, c'est pas rien. Hein, c'est un. Et, mais personne n'en a parlé en France. Enfin voilà. Donc Sensoridis le fait. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait avec nos sites internet. Donc on est aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et LinkedIn, et puis sur YouTube où il y a une petite chaîne YouTube avec quelques vidéos dont la visioconférence que j'ai fait avec Jérémy Gaveau de l'Inserm Cap ici, et on espère en faire beaucoup d'autres par la suite pour donner un petit peu de la visibilité à leur travail. Et puis j'ai commencé, mais c'est tout le début, à faire des conférences lors de manifestations. Donc j'ai été invitée à Munich l'année dernière dans les collèges français. Enfin voilà, donc pour la première fois, j'avais présenté une vulgarisation de la dysfonction proprioceptive avec un médecin. Et là, j'ai été invitée au mois d'octobre à la très grosse journée des 10 de Lyon, hein, donc l'association Distinguons nos neurones. Donc voilà, là, on passe des étapes parce que je suis assez fière de cela, parce que c'est une très, très grosse journée, l'association des 10 du Rhône. Et puis, on édite aussi des affiches, des flyers, enfin voilà, pour un petit peu faire connaître et diffuser à tout le monde.
Donc, vous avez un comité scientifique en quelque sorte au sein de la SOS.
Voilà, en fait, quelqu'un indépendant de la SOS, parce que c'est quelque chose de très important aussi que nous avons voulu quand on a créé l'association, qu'on ne puisse pas nous accuser de conflit d'intérêts. Donc, les professionnels qui prennent en charge ne peuvent pas rentrer dans le conseil d'administration ni le bureau. Et fait, le conseil de notre comité scientifique est consultatif, mais ils ne font pas partie de l'association. Voilà, comme ça, on ne peut pas dire qu'on défend l'intérêt des familles et des patients uniquement.
D'accord.
Donc ça, c'est le premier grand axe, c'est la première action de l'association. Le deuxième, c'est bien évidemment de soutenir les familles et les patients. Alors, on est une association, au début c'était nationale, française, maintenant internationale, on l'a appelée francophone parce qu'on avait des adhérents en Belgique, en Suisse, en Allemagne, donc on l'a appelée francophone, mais on est principalement français quand même, mais on est répartis sur toute la France, donc en fait c'est une association qui est quand même très dématérialisée. Donc il y a une petite permanence téléphonique le lundi, on fait des visioconférences qu'on appelle les visio-sensori-discussions, pour soutenir les familles, alors soit pour parler du traitement proprioceptif, soit pour parler de l'école, des choses qu'on peut mettre en place à l'école, des droits des familles, comment demander un PAP, comment monter un dossier MDPH, voilà. On a aussi un petit groupe de discussion sur Facebook, et puis sur notre site, je mets à la disposition des adhérents, des modèles de courrier, notamment les miens, parce que tous les ans, il faut demander à l'école le renouvellement du PAP, enfin voilà, donc des modèles de courrier pour les aider, pour rendre les choses plus faciles.
Rappelez ce que c'est que le PAP, parce que je pense que...
C'est un plan d'accompagnement personnalisé, voilà, c'est pour les enfants qui ont des troubles durables et qui ont besoin d'avoir... pas d'une aide humaine, parce que là c'est encore autre chose, mais par exemple un ordinateur. Mon fils, pendant des années, il a eu besoin d'un ordinateur, donc on passe par la mise en place d'un PAP. Et donc voilà, c'est un PAP, ça se redemande tous les ans, enfin voilà, il y a des choses.
Est-ce que globalement, je me permets, le monde enseignant est sensible à votre démarche
ou... C'est compliqué dans la mesure où c'est contesté, pourtant, voilà, on ne demande pas grand-chose. Il y a un pupitre en classe, il y a des petits repose-pieds pour les enfants qui ne sont pas assez grands parce qu'il faut toujours que le cerveau reçoive des informations proprioceptives. Hein. C'est pas grand-chose, mais c'est que parfois ça se passe mal, vous ne savez pas pourquoi. Parfois ça se passe bien, tant mieux. Enfin voilà, mais au moins on essaye de mettre à portée des familles. Alors, pareil, on a fait ces flyers pour ça, hein, pour que justement la communication soit plus facile. Je mets aussi sur le site un modèle de courrier pour les médecins scolaires avec 2-3 études scientifiques publiées, enfin voilà, pour leur montrer que contrairement à ce que soit ils ne connaissent pas, soit parfois ils pensent que c'est de la fumisterie, donc pour leur montrer qu'il y a de la recherche derrière, enfin voilà, on aide les familles un petit peu à communiquer.
Oui, pour ne pas lâcher quoi.
Voilà, avec l'école, avec les enseignants. On met aussi, voilà, il y a des mamans qui ont partagé, pour celles qui sont passées par un dossier MDPH, donc pas par un PPS, plan, peut-être vous savez mieux que moi, plan moi mon fils a eu qu'un PAP, plan personnalisé.
Non, ça, je...
c'est
pour lié à l'MDPH.
Voilà, et oui. C'est pour les enfants qui à l'école ont besoin d'une aide humaine en fait.
Oui, c'est ça.
Donc voilà, et donc là c'est vraiment dans le cadre du
alors, MDPH, rappelez aussi ce que c'est parce que
maison départementale du handicap.
Des personnes handicapées. Bon, en tout cas, c'est la commission gérée par le département qui reconnaît. Fait reconnaître la qualification de personnes handicapées,
voilà,
avec des pourcentages, voilà. Etc. Et parfois avec un financement dans certains cas,
voilà, de l'AES. Voilà, une aide au financement, et puis voilà des aides à l'école, ça peut aller jusqu'à l'aide humaine. Ouais. Et il y a des enfants qui sont dysprioceptifs, alors parce que justement on a aussi diagnostiqué une dyspraxie, un TDAH, parfois ils ont aussi, certains enfants qui ont un trouble proprioceptif ont une maladie génétique à la base, par exemple, voilà. J'ai des familles qui ont un syndrome de l'air dans l'os, donc en fait c'est une maladie du collagène, et il faut savoir que tous nos capteurs proprioceptifs sont situés dans du collagène, donc en fait quand le collagène est de mauvaise qualité, la proprioception ne fonctionne pas correctement, et donc ces enfants sont dysproprioceptifs, mais pas que, et donc ils ont effectivement des prises en charge, enfin des aides par la MDPH. Donc voilà, on essaye d'aider les familles de manière et d'autre, mais plus, vous voyez, de manière dématérialisée, parce qu'on est partout en France. Voilà, là j'essaye d'organiser un café ici, Sensory 10, en présentiel, là, dans 15 jours. Pour l'instant, j'ai pas d'inscrit. Voilà, c'est plus dur pour l'instant au niveau local, parce que c'est pas encore assez connu.
Il faut que l'information arrive, oui.
Et puis en plus, alors j'en parlerai peut-être à la fin, mais à Dijon, comme on a la chance que ce soit facile, en fait, les gens qu'on entend parler, c'est facile de trouver. Ils sont pas comme les autres à adhérer pour avoir où est-ce que je peux trouver un médecin, où est-ce que je peux trouver quelqu'un de formé. Et donc, en fait, on est une association dijonnaise, on veut faire connaître la recherche dijonnaise, mais on n'a pas beaucoup d'adhérents ici. À mon grand regret.
D'accord. Donc ça, c'était le soutien aux familles.
Et puis le...
C'était le deuxième axe.
Voilà. Et le troisième grand axe, c'est de soutenir la recherche, justement. Donc, avec plusieurs... de plusieurs manières possibles. Hein. Là, on finance actuellement une étude... pas totalement, hein, parce qu'on est petite association jeune et récente, mais on participe au financement d'une étude qui évalue le lien entre... le sommeil, la proprioception et l'attention chez l'enfant dyslexique. Justement, ces problèmes de diaphragme et de troubles du sommeil dont je vous ai parlé tout à l'heure. On fait connaître les études réalisées là ici au sein de l'INSERM CAPS en vulgarisant les études, en faisant des visioconférences avec les chercheurs. On organise des événements, on a organisé un événement commun et on espère bientôt organiser ensemble des événements sur la dysfonction proprioceptive et obtenir, on espère, le soutien de l'INSERM national, ce qui nous ferait franchir un grand pas, et aussi au niveau de la communication. Enfin, si on arrivera à ça, ce serait vraiment formidable. Et puis, moi, au Sensory 10, je fais aussi du lobbying auprès du ministère. Hein. Donc, moi, j'ai écrit l'année dernière plusieurs lettres au ministère de la Santé, à Claire Compagnon, qui est déléguée interministérielle à la stratégie autisme et troubles neurodéveloppementaux. Et souvent, mes courriers restent sans réponse. Et là, j'ai eu la bonne surprise d'avoir un coup de téléphone d'un chargé de mission au ministère de la Recherche, M. Lavalard, qui est maintenant mon interlocuteur privilégié. Donc voilà, il m'a dit « appelez-moi ». Enfin, il m'aide comme il peut, mais on a une oreille, je peux lui dire, voilà. Donc c'est lui qui m'a conseillé aussi d'avancer avec ici l'INSERM CAPS, qu'on organise des choses ensemble, enfin, voilà, parce qu'il a été très sensible à ce que je lui racontais.
Donc là, vous êtes en plein essor, en fait, en quelque sorte.
Oui.
Une montée en charge progressive.
Voilà,
vous avez parlé de financement tout à l'heure, que vous participez au cofinancement d'Action.
Oui.
Donc, ça veut dire que vous recevez des financements, vous mobilisez des dons, enfin comment vous...
Alors aujourd'hui, on est majoritairement financé par nos adhérents. Hein. J'ai une petite subvention de la mairie de Dijon. Je n'ai pas demandé tous les ans parce que c'est un gros dossier qui me prend beaucoup de temps. Et puis voilà, je suis malheureusement sur Dijon, comme je vous ai dit, on n'est pas nombreux. Puis je n'ai pas encore rencontré d'élus parce que voilà, l'occasion s'en est pas encore présentée. Mais voilà, avec le professeur Papa Xantif, qui est directeur de l'UTT INSERM, voilà, on envisage d'y aller ensemble. Donc peut-être qu'on franchira une étape à ce moment-là. Mais aujourd'hui, comme j'ai quand même pas mal d'adhérents, j'ai des dons de mes adhérents, j'ai une maman en Belgique dont l'enfant a été transformé, qui est aussi motivée que moi. Elle m'a dit, moi j'ai pas de temps, par contre j'ai de l'argent. Et donc elle m'a fait un gros chèque qui nous a bien aidé dans la communication. Enfin voilà, donc pour l'instant c'est notre action. Et donc voilà, comme on avait un peu d'argent, ben, on a dit aux chercheurs, voilà, on va vous aider. Et j'espère qu'un jour on aura assez d'argent pour les aider encore plus. Mais aujourd'hui je me heurte à quelque chose en France, c'est que le patient français ne comprend pas en fait l'intérêt de soutenir la recherche pour un traitement non médicamenteux qui existe déjà. Parce que voilà, il existe. Mais aujourd'hui, il n'est pas validé scientifiquement. C'est pour ça qu'il est très critiqué. Et il faut investir dans la recherche si on veut un jour qu'il soit reconnu au niveau de l'État. En fait. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore intégré en France.
En France, on a aussi une... Enfin, on n'a pas une tradition de financement privé en plus.
Voilà, aux États-Unis.
On considère que l'État s'occupe de tout, qu'on paye des impôts. Enfin, c'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts, hein, il y a beaucoup de redistribution, mais enfin, ce n'est pas la même logique. Vous allez en Suisse, par exemple, dans le monde que je connais, le monde social, médico-social, en Suisse, des actions qui s'occupent des SDF, des toxicomanes, se sont financées par les banques. Des associations privées, hein, qui sont très indépendantes, mais sont financées par les banques, par des entreprises, enfin, etc., majoritairement, et pas par les services, pas par le secteur public, c'est un petit peu différent. Et tout ce qui est innovant, souvent, sort justement d'argent privé pour permettre de faire bouger les lignes.
Ouais. Voilà, et voilà, donc le patient, mais je ne désespère pas, hein, parce que malgré tout, je vous dis, on avance à notre petit chemin, mais c'est que je vois les grosses associations de patients américaines, voilà, là-bas, les patients, ils ont compris, parce que là-bas, les patients, de toute façon, s'ils ne font pas ça, ils crèvent aux États-Unis,
oui.
Hein, mais nous, on est encore loin, mais voilà, je ne désespère pas de monter encore en puissance.
Est-ce que vous avez des liens avec les autres associations qui s'occupent des 10? Parce que je sais qu'il en existe dans toute la France. Mais...
Alors après, sur Dijon, moi, je suis, voilà, on est partenaire de Pluradis, il n'y a pas de souci, on s'entend
alors,
très bien.
Alors Pluradis, rappelez ce que c'est.
Alors c'est le réseau de santé bourguignon, même plus que bourguignon, puisque c'est Bourgogne-Franche-Comté, hein, pour justement les troubles de neurodéveloppement et autisme. Hein, donc pour les parcours diagnostiques... quand ils ne sont pas du plus haut niveau, avant d'aller au centre référent, enfin, vous voyez, à l'hôpital, enfin, voilà, c'est une plateforme diagnostique.
C'est une vraie plateforme,
oui, c'est une vraie,
professionnelle.
Voilà, professionnelle. Hein.
Et donc, c'est important.
Voilà, il faut connaître aussi, voilà, sur la région, il y a ça. Hein. Donc, voilà, avec Pluradis, il n'y a pas de souci, on s'entend très bien. Maintenant, au niveau national, en fait, par exemple, la Fédération française des 10, qui regroupe toutes les associations 10, j'ai pas entamé de relation avec eux parce que dans leur comité scientifique, ils ont des chercheurs qui sont très opposés à ce qui se fait ici. Hein, des Franck Ramu, des Michel Habib, enfin là, c'était que quelques-uns. Et donc, voilà, moi, je mène mon petit chemin, je fais, enfin, Sensoridis fait connaître, et puis ma foi, un beau jour, de toute façon, un beau jour,
Oui, et puis il peut y avoir des alliances locales.
Voilà,
autour
et puis.
Ce qui réunit normalement les gens, c'est quand même la question des enfants et de leur parcours.
Voilà. Okay. Comme je vous ai dit, là, Distinguons-nous Rhône, l'association lyonnaise qui m'a téléphoné, la présidente m'a téléphoné, elle m'a invitée, elle m'a dit les choses sont en train de changer. Moi, je vous invite à faire... Alors, elle ne m'a dit pas dans la grande salle, dans une petite salle. Mais je lui ai dit, mais c'est déjà un très bon début. Enfin, voilà, les choses commencent à bouger. Et puis, puisque bon, je parle des choses qui bougent, j'ai aussi une chose très intéressante qui s'est passée récemment. J'ai été contactée par un pédopsychiatre parisien qui s'appelle Gabriel Val et qui avait écrit un Que sais-je sur les 10. Et donc là, il va faire la réédition du Que sais-je sur les 10. Et il m'a dit, je voudrais y ajouter un chapitre sur la dysproprioception. Il m'a dit, moi, j'ai vu votre site, voilà. Et donc, j'ai eu au téléphone et on a pas mal échangé. Et on va voir pas un gros chapitre non plus, mais on va avoir un petit chapitre sur la dysproprioception dans la série Que sais-je, qui est quand même universitaire. Enfin, voilà.
Oui, puis qui est très...
Donc voilà, je suis très satisfaite, enfin, voilà, de nos échanges. Là, c'est tout neuf, hein, ça s'est passé le mois dernier. Donc je pense qu'on progresse quand même pas mal du tout.
Bon, vous commencez à être connu, hein, le blog, le site internet, mm-hmm. la fréquentation de vos...
Oui, ça je peux vous les donner d'ailleurs, pour vous donner une petite idée.
Ça m'a l'air important, voilà. En tout cas.
Mon premier blog, donc, je vous ai parlé que j'avais commencé avec des adaptations pédagogiques. Donc il en est actuellement à 3 380 000 visiteurs et 5 760 000 pages lues. Et reçoit entre 800 et 1500 visiteurs par jour. Et le blog de l'association lui-même, donc, qui est plus centré sur la proprioception, la recherche, donc qui est plus récent aussi, hein, qui a 4 ans et demi. Donc lui, il en est à pas loin de 200 000 visiteurs, 334 000 pages lues, et j'ai un peu plus de 300 visiteurs par jour.
Ça me paraît déjà plutôt bien.
Voilà, c'est pour ça.
Étant donné la complexité du sujet. Et les débats scientifiques autour de cette question. En tout cas, Radio Shalom Dijon suivra avec intérêt vos travaux dans le cadre de nos émissions sur qui font le lien entre la santé et l'éducation, mm-hmm. parce qu'il y a malheureusement beaucoup de problèmes de santé chez les enfants qu'il faut traiter. Et je sais qu'en Angleterre, ils ont une journée nationale sur les 10, mm-hmm. qui doit être le 7 juillet, parce que c'est le 7e mois, je crois. Voilà, donc, ils considèrent qu'à la louche, il y a 7% de gens touchés mm-hmm. par ces problématiques-là. Donc ils l'ont fait le 7, le 7 et le 7 juillet, parce mm-hmm. que c'est le 7e mois.
D'accord.
En tout cas, c'est une journée importante en Angleterre. Bon, chez nous, on n'a pas encore ce type de...
Alors, on a la journée des 10 quand même en octobre.
On l'a maintenant. Hein. Voilà. Je ne la connais pas, voilà. du coup.
Alors, je vous l'ai dit, parce que la journée des 10, normalement, c'est le 10 octobre, mais en général, ça tombe le samedi. Donc, c'est le week-end qui a... le plus proche du 10 octobre. Par exemple, là où je suis invitée à Lyon, c'est la journée des 10 qui aura lieu le 14 octobre.
Très
donc
bien.
Elle se fait toujours au mois d'octobre.
Si vous êtes d'accord, moi je propose qu'on se revoie bien un peu avant, de manière à préparer d'utiliser cette journée pour faire passer des messages concernant votre travail, pourquoi pas à Lyon, vos démarches, montrer où vous en êtes dans vos démarches, pourquoi pas avec d'autres connaissances que vous avez d'associations proches avec qui vous pouvez aussi vous entendre, notamment tout ce qui est autour de la dyspraxie, qui a encore beaucoup de mal à être comprise, hein, même la dyspraxie
d'accord.
en tant que telle.
Ah oui, non, mais...
L'expression, en tout cas, des difficultés à l'école est encore mm-hmm. peu comprise, enfin, aujourd'hui, et peu soutenue, il me semble. Hein.
Oui, mon fils avait ses difficultés, là, hein, donc je connais bien les difficultés du dyspraxique. Hein, et voilà, la dyspraxie, c'est l'automatisation du mouvement. Alors, il faut savoir que le mouvement, c'est la proprioception. Hein, donc, une proprioception dysfonctionnelle va faire que vous ne pouvez pas automatiser vos mouvements.
Donc les enseignants ont du mal à comprendre ces enfants qui sont lents, ces enfants qui fatiguent énormément.
Qui
renversent tout sur leur table.
Voilà, qui sont maladroits. Tout.
Qui ont du mal à écrire, puisque certains ne peuvent pas écrire dans une organisation traditionnelle de la page, par mm-hmm, exemple, mm-hmm. choses comme ça. Mais... Oui, le 10 octobre, très bien de nous rappeler. Donc, le que sais-je, c'est important, puisque vous nous le direz quand sortira ce que
voilà,
sais-je sur les 10.
Voilà, monsieur Gabriel Wall, il m'a dit qu'il me préviendrait, qu'il m'enverrait une...
C'est très important, parce que je crois que le champ des 10, vous avez un concept particulier lié à la mm-hmm, recherche et mm-hmm. à des découvertes récentes. Mais on peut aussi faire le lien avec, si vous êtes d'accord, aussi avec la notion de 10, parce que ça aussi qui fait du bruit, qui peut faire du bruit pour que les parents puissent trouver du soutien et être moins inquiets par rapport au parcours de leur enfant.
En fait, on peut aussi faire quelque chose avec Pluradis, en fait, avec la Sophie Saltarelli, par exemple, la directrice de Pluradis, on se connaît bien, enfin voilà, si vous voulez.
Avec plaisir, oui. Voilà. Tout ce qui peut aider à améliorer la situation des enfants, à alléger leur parcours, à faire en sorte qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire, mm-hmm. c'est-à-dire apprendre pour grandir, puis choisir après un métier ou quelque chose qui leur plaît dans la vie, ça me paraît fondamental.
Tout à fait.
On peut éviter beaucoup de souffrances et beaucoup de malheurs parfois, d'ailleurs.
Ben oui.
Ça peut aller jusque-là.
Ben bien sûr, parce que c'est toute la famille qui souffre. Hein. L'enfant souffre et on souffre de voir souffrir notre enfant. C'est dur. Enfin, les gens se rendent pas toujours compte. Hein. On dit un enfant dyslexique. Enfin voilà. Mmh. Mais tout ce qu'il y a derrière, c'est très très lourd. C'est beaucoup beaucoup de souffrance.
C'est très très compliqué. Mmh.
Voilà. Parce que l'école, finalement, chez ces enfants-là, c'est toute leur journée. Mmh. C'est tous les jours. Hein.
C'est leur job.
Donc leur handicap, il leur revient à la figure tous les jours.
Vous comprenez, chère auditrice, auditeur de Radio Shalom Dijon, que nous étions avec Madame Corinne Grand-Vincent, qui est passionnée par le combat qu'elle mène pour faire connaître ce concept de disproprioception, qui est un élément clé qui explique notamment certains dysfonctionnements dans l'apprentissage des enfants et dans leur difficulté de grandir à l'école. Nous aurons l'occasion de reprendre ces échanges. Donc, à bientôt sur Radio Shalom dans votre émission À l'assaut.
Ma ville, ma région, l'actualité de Dijon Métropole.